une association d'usagers des bibliothèques. Oui. D'où est venue l'idée ?
L'idée est venue du constat de l'absence des usagers dans les débats publics qui pouvaient naître à Marseille autour de l'état délabré des bibliothèques qui générait des conflits sociaux, des grèves à répétition, des polémiques dans les journaux, des débats tourmentés. Énormément d'acteurs sociaux intervenaient et ceux qui sont pourtant les destinataires de tout ce dispositif, les lecteurs, les usagers, qui sont aussi par ailleurs les contributeurs, puisque c'est avec de l'argent public leur argent, et aussi des contributeurs quand ils payent des cotisations. Ces gens-là étaient absolument inexistants, absents du débat, et pas du tout concernés par ça. Donc on s'est dit que les usagers comme participants au débat, ça se constitue, ça ne ramasse pas en deux claquements de doigts, et qu'il faut utiliser cette outil au fond très simple et très banal qui existe depuis 1901, à savoir une association qui permet à des citoyens de se rassembler sur un projet minimal pour essayer d'exister dans l'espace public. Notre volonté d'exister dans l'espace public, elle est double, elle est d'exister en tant que porteur d'idées et donc intervenant dans le débat dont je parlais puisque c'était le point de départ, mais aussi d'exister en tant qu'agents sociaux, c'est-à-dire des gens qui occupent une place qui est reconnue par le droit, parce qu'il y a une dimension politico-juridique. L'évolution récente de l'État, depuis quelques décennies, fait qu'il y a une place réservée aux usagers de droit, comme sujet de droit, pas parce qu'ils sont gentils, pas parce qu'ils sont au fond des amis de l'institution. C'est pas sur le mode du 19e siècle. Le mode moderne, c'est de dire qu'ils y ont droit parce qu'ils sont des sujets, parce qu'ils sont des citoyens, tout simplement. C'est vrai pour l'éducation nationale, c'est vrai également pour la santé, c'est vrai pour plein de sujets. Et il y a un retard considérable dans le domaine de la lecture publique. Eh bien, ce retard, nous nous mettons modestement à travailler pour essayer de le combler et de faire avancer cette idée qu'il faut que les usagers aient une place reconnue, non discutée, à l'intérieur des institutions quand elles se créent.
Comment vous voyez justement le débat sur la lecture publique à Marseille ? On sait qu'il n'y a que 8 bibliothèques à Marseille, ce qui est très peu par rapport à d'autres villes. On sait qu'elles sont peu ouvertes. L'Alcazar ouvre à 11h du matin. Pendant les vacances, c'est très difficile aussi de trouver une bibliothèque ouverte. Les bibliothèques, vraiment, n'ont pas les fonds qu'on peut attendre. Et pire, parfois, on demande un livre qui se trouve au catalogue, dans le fichier, et qui n'existe plus matériellement. Comment est-ce que vous pouvez intervenir dans ce débat ?
Ce qui est troublant, et que vous pointez peut-être, en tout cas que moi je relèverais, c'est que tous les éléments pour appréhender la réalité, toutes les analyses, toutes les observations, toutes les études, toutes les théories, toutes ces expériences accumulées qui ont été observées, tout existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant un trou noir, on n'est pas devant quelque chose qui nous échappe, qu'il faudrait essayer d'approcher en se donnant beaucoup de temps et de moyens. Non, non, tout existe, mais ça ne prend pas, parce que tout simplement, il y a plusieurs problèmes qui font réellement obstacle. Un des problèmes, c'est que les gens qui sont aux responsabilités disent une chose et parfois en font une autre. Qui a ce fameux dilemme que Bourdieu avait pointé dans un petit texte qui est formidable, qui dit qu'il faut prendre en compte le fait que la main droite de l'État peut défaire ce que la main gauche a fait. Donc il y a déjà cette position très très étrange d'avoir en face de soi des interlocuteurs politiques qui affichent des objectifs qui sont absolument reconnus et partagés par tout le monde, et néanmoins ces objectifs disparaissent, s'évanouissent, quand on observe la réalité concrète qui est dans. Il y a un gap, il y a un espace là qui est très préjudiciable au débat, puisque votre question initiale, c'était sur le débat et comment y parvenir. On aimerait déjà pouvoir réduire cet écart entre ce qui se dit, ce qui s'affiche, et puis ce qui se fait. Hein. Parce que sinon, il y a une position qui est proche de l'impuissance. À quoi ça sert de parler avec des gens qui sont d'accord avec vous ? Puisque, au fond, ils sont d'accord avec nous. Il faut développer les bibliothèques. Mais bien sûr, monsieur le président de l'association des usagers, nous voulons développer les bibliothèques. Très bien, mais comment est-ce que vous êtes ? Nous avons un plan, monsieur. Bien sûr, vous avez un plan, oui. Mais comment ça se fait que vous avez pris 20 années de retard là-dessus ? Mais ça, c'est pas le problème, monsieur. Nous, on est d'accord avec vous. Il faut développer, il faut développer, il faut développer. Donc, il y a une difficulté incroyable à ce que le débat puisse être posé dans des termes justes. Parce que je pense qu'au fond, en face de nous, il y a des gens qui n'assument pas leur position. Voilà, ça c'est déjà un point, et qu'il faudrait qu'ils l'assument, tout simplement, qu'ils sachent dire, eh bien, écoutez, non, on ne veut pas de ça, ou nous, on veut ça, et puis on s'y tiendra, et qu'il y ait au moins ce rapport entre ce qu'ils expriment et ce qu'ils font, qui est la condition minimale pour qu'un débat puisse avoir lieu. Si, parlant avec moi, je n'arrête pas de vous dire des choses, mais j'en fais d'autres, vous allez arrêter vite la conversation, quoi.
Alors il y a quand même, hors du débat, une situation objective. Par exemple, la ville a signé un contrat avec l'État. Elle doit remplir certaines missions et elle reçoit des subventions équivalentes pour ces missions. Et là, elle ne remplit pas ses missions, donc elle voit ses subventions baisser. C'est bien ça ?
Oui, c'est un mécanisme qui a été repéré assez facilement. C'est que le cadre dans lequel s'inscrit la politique municipale est un cadre qui est avec un partenaire qui est l'État. C'est-à-dire que les deux se décident de signer une convention pour développer dans telle ou telle condition, avec un cahier des charges, et qui fait que l'État s'engage à apporter, à abonder, à apporter de l'argent public à ces réalisations, ou pas, si en face le partenaire ne remplit pas sa partie. Donc oui, c'est vrai qu'il y a souvent, ça a été pointé ça sur Marseille, Marseille n'utilise tout simplement pas les possibilités de drainer sur la ville de l'argent de l'État, tout simplement parce que Marseille ne prend pas ses responsabilités. Ça, c'est la première chose. Mais il y a encore plus compliqué que ça. C'est que tout simplement, on est dans l'incapacité de savoir exactement qui fait quoi. C'est-à-dire qu'on repère cette mécanique, je vous dis, d'argent public qui, au fond, ne vient pas sur les services publics parce que Marseille ne prend pas la ville ne prend pas ses responsabilités. Mais au fond, on ne peut pas vraiment avoir une estimation précise et claire de tout ça parce qu'il y a un travail d'évaluation qui n'est pas fait, qui ne veut pas être fait, qui ne peut pas être fait et qu'on n'arrive pas à obtenir. Et qu'une de nos revendications, nous, c'est de dire vous inscrivez toute cette politique publique à l'intérieur d'un cadre conventionnel qui prévoit dans 3 articles qu'il y ait un travail d'évaluation annuel qui soit fait. Nous demandons que cette convention soit exécutée, que soit réuni le comité qui permette d'évaluer les choses et qu'on se mette au travail pour savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été en partie fait, ce qui va être fait, pourquoi, etc. etc. Sinon, on devient fou parce qu'on ne sait plus de quoi on parle et on ne sait plus comment regarder la réalité en face. Et précisément, il faut absolument faire cette approche raisonnée de ce qui est en cours pour qu'on puisse réfléchir. Voilà, on en est là, on essaie de reprendre tout au début.